Ça se reconnaît un écologiste.
Avec tous ces oiseaux à la con, ils sont 50.
CO2.
Ça a des lunettes, ça a une barbe, ça a un camouet.
En amour.
Tu préfères les bagnoles ?
Peut-être.
Denis Chessou.
J'ai une recette du pays.
Sans produits chimiques, il n'y a jamais de contre-indication.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie et qui prend le temps de ne pas aller trop vite, avec aujourd'hui Rémi Quincet et Pierrick Monsigny à la technique. Et nos assistants sont Séverine Bouvard, Marion Lelay, je n'oublierai pas Jean-Christophe Pinaza, et c'est Somani Na qui réalise l'émission cette semaine. Allez, une petite humeur, culture quand tu nous tiens. Au Royaume d'Angleterre, par exemple, quand on marie le fiston, on la joue prince et princesse, liesse populaire et carrosse dorée. Enfin, pardon, parce qu'on dit un landau d'État. C'est moins joli, mais c'est quand même ça. Sans s'occuper, évidemment, du bilan carbone qui est un machin à vous gâcher la soirée. Chez nous, le clou du spectacle, c'eût été le repas dans la grande tradition de notre bon roi Henri IV. Festoyez en paix, braves gens. La gastronomie française appartient désormais au patrimoine immatériel de l'humanité. Mais pas que, mais non! Notre ministre de la Culture vient d'inscrire au patrimoine immatériel français ce morceau de bravoure qu'on appelle la corrida. Alors je vous rappelle le déroulement de l'opération. On lâche un jeune taureau dans les arènes, forcément inexpérimenté le taureau, puis un gang de soi-disant représentants de l'espèce humaine vous cuisine l'animal à l'arme blanche jusqu'à ce que morceau suive. Sauf que dans le métier, on fait durer la chose. Premier acte, on harcèle la bête à coups de pique de 20 cm, on la fait tourner en bourrique, on lui charcute les ligaments du cou, et là, voyez-vous, le taureau, il fait pas le malin. Non, il fait déjà moins le fier, il peut pas relever la tête. Deuxième acte, on lui plante 3 ou 4 paires de banderilles multicolores. Joli, hein. Ah ouais, c'est comme un bouquet de roses trémières agité par le vent, c'est du plus bel effet. Troisième acte, le bestiau est à bout, le matador lui plante la muleta entre les omoplates et tant mieux pour lui s'il rend l'âme aussitôt. Bref, un vrai chef-d'œuvre d'art populaire. Alors faut pas s'arrêter en si bon chemin, monsieur le ministre, parce que vous avez aussi la chasse au blaireau à coups de pioche et de pince, vous avez le tir sur les oiseaux migrateurs inutiles, la souffrance ordinaire des animaux qui remplissent nos assiettes, qui pourraient aussi figurer en bonne place dans ce catalogue immatériel de l'infâme. Grâce à cette saine mesure, le business taurin, parce que oui, quand même, derrière, il y a quand même du business derrière tout ça, pourra recevoir en plus des subventions territoriales, celles de l'État. Aujourd'hui, je vous rappelle que les 3/4 de la population française sont pour l'abolition de cette barbarie. C'est pas grave, amis contribuables, vous paierez, nous paierons. C'est donc bien en première mondiale que Frédéric Mitterrand inscrit la chose au patrimoine immatériel français, avec la bénédiction d'UNESCO, en vertu d'une tradition tout à fait récente, puisque héritée d'un caprice de l'impératrice Eugénie. Nous étions en 1860 et c'était une aficionada. Est-ce une fatalité ? Ben non, car aujourd'hui, le public ne suit pas vraiment. Bientôt, on l'espère, Catalogne, Mexico, Équateur et ailleurs, on n'achèvera plus les taureaux. Et tant qu'on ne réglera pas notre rapport à la souffrance de l'animal, l'homme aura du mal à soigner sa barbarie. C'est pas moi qui le dis, c'est saint Thomas d'Aquin qui n'était pas exactement à l'époque des corridas. La peine de mort abolie par François Mitterrand, la corrida et la torture animale érigée en fait culturel français par le neveu, avec la caution bien sûr scientifique d'ethnologue, etc. Ainsi va la France. Comme disent les taureaux dans l'arène, les hommes passent et ne se ressemblent pas. Faire attention parce que le pire n'est jamais sûr en période préélectorale. Alors on va parler maintenant donc, dans cette émission de ce menu. Qu'est-ce qui va se passer ? Ah, alors, nous allons, avant de retrouver Jean-Marie Pelt, nous allons nous offrir une petite balade dans un autre règne animal, celui du plancton.
Là en haut, l'étoile qu'on voit, là, oui. Voyez, ça c'est une diatomée. Et bien il y a quelques heures, il y avait un bâtonnet et les bâtonnets s'est divisé et ça fait une colonie. Ensuite, cette étoile va s'éclater et chaque bâtonnet redonnera naissance à une autre chaîne et ainsi de suite, quoi. Donc c'est vraiment, on est dans le phytoplancton, dans le plancton végétal.
Et nous allons aussi avoir une actualité avec Nathalie Fontrelle qui nous parlera des enseignements d'EDF après la catastrophe de Fukushima. Nous jardinerons aussi autrement, donc plein de nouvelles tout à fait intéressantes. Mais sans plus tarder, l'homme que vous attendez en ce début d'émission, botaniste, humaniste et aussi possesseur d'une carte vitale, hein, ça le rend très humble comme nous tous, raconteur du monde végétal et des épices, le voici.
Jean-Marie Pelt, bonjour.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Est-ce que votre chienne qui nous accompagne pour cet enregistrement aime le gingembre ?
Elle adore.
Elle adore le gingembre.
Oui. C'est très à la mode, parce que c'était censé depuis très longtemps réchauffer les vieillards.
Ah oui, oui. Comme il y en a de plus en plus.
Voilà. Alors c'est une épice.
Oui.
Vous savez, la plante, elle ressemble à ces héliconiums qu'on ramène quand on va aux Antilles. Tout le monde ramène ça dans l'avion.
Oui, mais les héliconiums,
vous
quoi
savez comment
ça
c'est fait
ben, c'est avec une, un H
c'est un, c'est, oui, avec un H. Oui. C'est une longue tige. Et dessus, il y a des pièces d'un rouge vif
d'accord.
qui sont mises en épi les unes sur les autres. Ça vous dit quelque chose?
C'est bon.
C'est bon.
Oui, ça y est.
Et quand on va aux Antilles, on ramène ça. Tout le monde ramène tout ça. Dans l'avion, ça. L'avion est tout plat.
Oui.
Alors, c'est la famille des Gingiberacées. C'est la famille de la gingembre.
Bon.
Le gingembre, lui, il vient d'Extrême-Orient.
Donc, nous mangeons quand même la racine, en quelque sorte.
Nous mangeons le rhizome, qui est la tige souterraine. Et alors, elle a été très prisée par les Grecs, qui le faisaient venir par les flottes arabes, qui revenaient de Chine avec du gingembre, ou bien par la route de la soie. Il y avait deux routes. Comme pour toutes les épices extrême-orientales, il y avait la route maritime tenue par les Arabes et la route de la soie tenue par des potentats locaux qui prélevaient à chaque étape des droits.
C'est ça.
Si bien qu'à l'arrivée, ça coûtait...
C'est une fortune.
C'est une fortune. C'était très, très
ça
cher.
C'était zéro au départ, mais à l'arrivée, c'est extraordinaire.
Alors, les Romains, ils n'aimaient pas. Alors, les Romains, ils ont boudé le gingembre. Mais, voilà, mais c'est reparti à l'époque des croisades. Parce que les croisés ont trouvé ça très sympathique, et le gingembre a connu un succès énorme au Moyen-Âge, et a supplanté complètement le poivre. C'était l'épice la plus consommée au Moyen-Âge en Europe occidentale. Donc c'est une épice qui a eu quand même une histoire extrêmement importante, et au Moyen-Âge, les médecins de Salerne, qui est une ville située au sud de l'Italie, et qui comportait... la seule grande faculté de médecine du Moyen-Âge en Europe occidentale, disait que c'était une panacée. Je vais vous dire ce qu'il disait. Au fond de l'estomac, des reins et du poumon, le gingembre brûlant s'oppose avec raison, éteint la soif, ranime, excite le cerveau, et en la vieillesse, l'éveille, l'amour, comme un jeune nouveau-né. En
oui,
fait, le coup du nouveau-né est assez curieux. Parce
autrement
que...
dit, ça fait mander, quoi. C'est
oui,
ça l'idée.
C'est ça, oui. Comme les nouveau-nés.
Comme les nouveau-nés, bien sûr.
C'est ça qu'ils ont écrit.
Okay.
Donc, c'était la réputation du gingembre. Et alors, à partir de là, eh bien, il est rentré dans l'arsenal des pharmaciens. Alors, l'arsenal des pharmaciens, quand je faisais mes études, il y avait deux livres cultes. Il y avait le Lemery, qui était le livre sur les drogues, qui remontait au XVIIe siècle, qui était encore utilisé à l'époque parce que j'ai fait mes études il y a plusieurs centaines d'années. Et puis, il y avait...
Milliers
d'années.
Je vous en prie.
Centaines de milliers d'années.
Voilà.
Oui.
Ça.
Et puis, il y avait le Dorvaux. Alors, le Dorvaux, c'était un bouquin qui avait, lui, à peu près 100 ans. Et dans ces deux bouquins, le gingembre est présenté comme un médicament extraordinaire pour tout.
Alors,
ce qu'on appelait les panacées.
Ah, voilà, c'est ça,
des médicaments qui sont bons pour tout. Mais il était surtout bon pour réchauffer les humeurs des vieillards.
Bon.
Et la question devient celle-ci, est-ce que oui ou non, il est aphrodisiaque?
Oui.
Écoutez, j'en sais rien, je crois un peu, mais alors, je me suis toujours dit que quand je serai plus âgé et que j'aurai du temps devant moi, que je n'écrirai pas un livre tous les 15 jours, je regarderai de près la question des aphrodisiaques, parce que c'est une question qui est mythologique. Plus que scientifique.
C'est
les mythes qui font bander, comme vous avez dit tout à l'heure, qui était très trivial pour la radio. Et c'est les mythes qui font fonctionner le truc, c'est pas la plante. Bon, mais si, le gingembre, il est un peu aphrodisiaque, mais il a des propriétés médicinales, ce qui est très curieux pour une épice, parce que les épices sont des plantes qui ont toutes raté leur carrière médicinale. Toutes les épices ont
été... Elles avaient des vertus culinaires, mais pas médicinales.
Mais on croyait qu'elles avaient des vertus médicinales.
D'accord.
Et c'est toujours pour leurs vertus médicinales qu'on les a conseillées.
Oui.
Et puis elles finissaient toujours à la cuisine. Elles finissaient pas dans l'armoire à pharmacie parce que finalement on les a pas utilisées. Mais le gingembre, si. Alors, il a une propriété, c'est un peu contradictoire avec ce que j'ai raconté, il est sédatif.
Ben oui, pareil.
Ben c'est pour ça que c'est compliqué. C'est pour ça qu'on a pris un sujet compliqué aujourd'hui.
Oui.
Il est sédatif et on fait un médicament qui est... calmant, antalgique, il fait passer les douleurs. Ça se fait actuellement aux États-Unis et il est possible que cette plante devienne un médicament antidouleur important. Alors, c'est actuellement à l'essai.
Alors, dites-moi, je vois que c'est quand même une épice polymorphe et ambiguë. Je lis ça par rapport à votre ouvrage, Jean-Marie Pelch, les épices. Je n'ai pas inventé. Donc...
Oui, parce qu'elle est sucrée-salée.
Ah.
Elle marche au sucré, elle marche au salé. Et de fait, quand vous la consommez, quand vous en coupez des petits morceaux, c'est un petit peu la consistance, disons, j'allais dire d'une noix de cola, mais ce n'est pas ça qui va expliquer à nos amis qui nous écoutent comment c'est. Une consistance un peu dure, mais pas raide comme une noix. C'est une consistance comme la noix, mais pas comme la coque de la noix, comme ce qu'il y a dedans la noix. C'est comme ça.
Les cerneaux.
Oui, les cerneaux, absolument. Et si on la met en bouche, ça a une saveur très forte. C'est une saveur sucrée. Sucrée, une saveur sucrée. Et on l'a toujours considérée comme une épice qui se marie avec tout. Mmh. Et ceux qui manipulent la grande cuisine utilisent le gingembre dans pratiquement tous les types de plats. Alors, donc, si une épice à spectre large,
spectre,
si vous voulez.
Oui. Jean-Marie, merci beaucoup. Bon gingembre, et puis on se retrouve la semaine prochaine.
Oui, et on va réinventer des histoires sur le gingembre.
Allez, encore ?
Oui.
Oh, c'est incroyable.
Oui.
Allez. Au revoir, Jean-Marie.
Au revoir, Denis. Au revoir à tous.
En fait, c'est un feuilleton, le gingembre avec Jean-Marie Pelch. C'est comme ça. Dans quelques instants, on va s'intéresser au plancton et nous irons dans le département du Morbihan.
La neige est éternelle. Disait la vieille, accroché à rien, on coule de source. La neige est éternelle, et puis la vie. Alors on se dit peut-être à demain. Tous pointent au sommet, ta tête sur mes épaules. Et si j'oubliais que tu pleurais, tu t'es posé, reposé une fois de plus. Que deviendraient les oiseaux sans tes soupirs? Que deviendront tes envies si tu expires? Quelquefois surpris, absent, qu'en reste-t-il? La neige est éternelle, disait la vieille. Accroché à rien, on coule de source. La neige est éternelle, et puis la vie. Alors on se retrouvera plus loin. Des secondes, des quelques morceaux. Les nuages de Bacchus nous versent encore du vin. Le bruit des chevaux nous rappelle que la diligence approche. Les vieux devenus sourds attendent l'ultime voyage vers l'ouest, toujours plus à l'ouest. Pas un jour sans que le soleil s'y couche. La neige est éternelle, disait la vieille. Accroché à rien, on coule de source. La neige est éternelle, et puis la vie. Alors on se retrouvera plus loin. Éternelle, oh, sauf quand elle fond, accrochée à rien, on coule de source. La neige est éternelle, et puis la vie. Alors on se dit peut-être à demain.
لا La neige est éternelle, sauf quand elle fond. Ben, il a raison. Donc, c'était Alenko sur France Inter, qui est un chanteur genevois, qui fait beaucoup de vélo, d'ailleurs. Il s'est pris un trémoille il n'y a pas longtemps dans la figure. J'ai vu ça. Enfin, il va quand même beaucoup mieux. Ça s'appelle Retour aux sources. Et nous, eh ben aussi, on va aller aux sources. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on va parler du plancton. Et nous partons dans le très beau département du Morbihan. Oh, Pierre Molo, mais qu'est-ce qu'il est beau, votre coin. Là, on est vraiment avec... avec cette baie de Lorient. Où est-ce qu'on est exactement?
Ah ben on est à Port-Louis, hein. On est à un endroit qui s'appelle La Pointe, qui est, on voit la citadelle ici, l'entrée de Port-Louis, et puis là-bas sous-marine en face, là.
D'accord.
Et puis Lorient au fond, et puis voilà, on est sur le petit port de pêche de Port-Louis, et à l'endroit où je suis, et c'est là que j'avais rendez-vous avec mon grand-père quand j'étais petit, il avait son bateau de pêche ici, maintenant c'est le désert, hein, là. Les bateaux sont partis sur Lorient, ils se sont mis un peu à l'abri derrière, quoique ils sont sortis. Mais voilà, c'était là, je passais mes soirées, mes journées, là. Ma petite maison au volet bleu, qui est un peu juste au-dessus
c'est
du boulevard.
C'est ça qui vous a vu naître, celle-là?
Oui, ouais, c'est là, c'est bon. Le boulevard, là.
Ça y est.
Le boulevard, là, tu vois, les ouais, arbres, là, c'était mon jardin. C'est là que j'ai rencontré mes copains, mes copines, surtout mes copines. Quoi.
Bien sûr.
Voilà.
Hein. Et vous vouliez être pêcheur, là?
Ah oui, ici, mais j'étais tout le temps à la canne, ici, au quai, là, avec ma canne à pêche. Mon grand-père qui revenait avec son bateau, là, c'était trop drôle, quoi, de voir lui rentrer avec son chalutier, puis moi, avec ma canne à pêche, en train de pêcher des petits poissons.
Et puis, alors, votre maman vous a dit, bah non, en fait, tu ne seras pas pêcheur, tu seras ajusteur.
Voilà, donc on m'a dit, fini pour lui, la pêche était bien, le dimanche, maintenant, les choses sérieuses, tu vas aller faire tes universités à Paris. Donc j'ai fait 3 ans, c'est un peu d'ajusteur, quoi. Donc j'ai fait mes universités à Paris.
Là-bas. Mais quand même, opiniâtre et un peu têtu, et vous revenez?
Ah oui, parce qu'à 21 ans, je reviens, quoi, au pays, et je dis, je suis majoritaire, je vais dire.
Je suis majeur,
et je peux décider de mon avenir. Donc c'est ici que je veux vivre, à Port-Louis.
Un homme déjà très attachant, vous l'avez compris, la mer toujours recommencée, tu la chériras, la mer. Oui, mais tu chériras aussi le plancton à l'origine du monde. Plus de 3 milliards d'années au compteur et toujours en place. C'est les baleines qui nous écoutent nombreuses le samedi après-midi en roulant leur bosse le savent. Sans plancton, pas de vie marine, pas de krill, donc pas de baleines. Pierre Molo, c'est vraiment un défenseur de la mer côtière, de la qualité des eaux. Et aujourd'hui, cet enseignant, chercheur, biologiste, se transmet sa passion à tous. Il développe aussi des coopérations au Bénin, au Cambodge, au Vietnam, en Ukraine, et sans relâche, tel un gardien de phare, il scrute la mer. Alors, il ne veille pas aux déchaînements, aux tempêtes, pas du tout, mais il observe avec minutie l'intimité de cette mer, le contenu de ses gouttes d'eau, l'infiniment petit, autrement dit, la base, qui permet après à toutes les espèces supérieures de vivre. Pas une journée sans regarder son microscope, c'est un petit peu la devise de Pierre Molo. Donc un homme qui est tombé dans le plancton quand il était petit, on va voir comment. Poussière d'étoiles, oui, ça elles sont chères à Uberive, mais aujourd'hui avec Pierre Molo, nous allons à la découverte des poussières de mer. On y va. Faites-nous le lien avec le plancton, là, quand même, parce que vous n'êtes pas devenu pêcheur, mais vous êtes devenu presque un professeur, un initiateur de plancton. Quoi, donc.
Oui, bah, avec les copains qu'on a vus à l'observatoire là, de plancton, bah, déjà tout petit, on allait à la petite mer de Goff, qui est de l'autre côté, parce qu'ici, l'avantage, c'est que on a la rade de Lorient, et à 10 minutes, un quart d'heure, on est sur la petite mer de Goff, qui est une nurserie à poissons.
D'accord.
Donc ici, on a un fleuve, on a deux fleuves qui se jettent dans la rade de Lorient, quoi. Et puis de l'autre côté, la petite mer. Et nous, on passait notre temps à la petite mer de Gavre pour aller prélever déjà le plancton avec un copain océanographe qui faisait de la scénographie, de la géographie. Il disait, mais vous savez, il y a du plancton dans la vie. Et donc, à 15 ans, on prélevait déjà du plancton.
Et alors, vous intéressez donc à ce plancton qui est vraiment de l'infiniment petit et qui est de l'infiniment grand pour tout le monde, parce que sans ce plancton, ben, on ne serait sans doute pas là. Alors, racontez-nous.
Ah, oui. Moi, je dis souvent, le plancton, c'est géant, quoi. Il est là depuis 3 milliards et demi d'années, et puis, et donc il mérite le respect. Hein. Et donc, j'ai été même le voir, la semaine dernière, j'étais au Tchad, hein, au lac Tchad, dans le désert, en train de regarder l'origine du plancton, parce que là-bas, existe encore le plancton qui est né il y a 3 milliards et demi d'années, au Tchad, dans les lacs du désert.
Donc c'est un marqueur presque originel. Quoi.
Ah oui, complètement. Et puis bon, c'est lui qui a quand même transformé l'atmosphère CO2 de l'époque en une atmosphère oxygène aujourd'hui. Quoi. Et donc, entre le plancton qu'il y avait il y a 3 milliards et demi d'années et aujourd'hui, ce qu'on a de plus, c'est la diversité. Quoi. C'est la très très grande diversité du plancton végétal d'abord, qui a donné la diversité du plancton animal. Et ensuite, la grande biodiversité de toutes les espèces que l'on connaît, poissons, coquillages, crustacés, mammifères. C'est vraiment le socle. Et connaître le plancton végétal, c'est aussi anticiper sur les activités maritimes de la pêche, de l'ostréiculture. quand on voit un certain type de plancton, on se dit, tiens, dans 15 jours, 3 semaines, ça va falloir faire attention.
Tous les jours, vous venez faire vos petits prélèvements, donc vous avez votre épuisette, racontez-nous. Hop.
Voilà, donc moi, pendant 40 ans quasiment, tous les jours, j'ai plongé mon fil à plancton, et puis la curiosité, quoi. Alors parfois, c'était pour des raisons pédagogiques, parfois pour des raisons scientifiques, et aujourd'hui, c'est pour le plaisir. C'est jamais arrêté un moment où j'ai regardé le plancton tous les jours. Donc c'est tout simple, c'est comme un peu un filet à papillon ou à insecte, on y voit, et puis on récupère la surface de l'eau. Ces micro-organismes qu'on ne voit pas au premier coup d'œil, mais qu'on peut voir après le microscope. Hop. Donc là on va le mettre dans le bocal là pour le voir à la lumière, c'est quand même plus sympa. Voilà, donc c'est on appelle ça un filet à plancton. Donc la moille est d'à peu près de 80 microns. Donc ça va récupérer tous les micro-organismes qu'on appelle le phytoplancton et le zooplancton.
Le zooplancton, c'est donc le plancton animal.
Animal. Je vais encore faire un petit coup parce que j'ai pas été très adroit là. C'est l'émotion, quoi.
Je comprends bien.
Là, prendre du plancton, en fait,
bien sûr.
Il faut le faire. C'est pas, c'est pas tous les jours, quoi.
Alors en fait, ce plancton nous indique les protéines que l'on mangera demain.
Voilà, donc exactement le phytoplancton, le plancton végétal que l'on peut observer aujourd'hui, c'est très important parce que c'est celui qui donnera les poissons dans 10, 15 ou 20 ans. D'ailleurs, qu'un poisson, il ne tombe pas du ciel comme ça. Alors le plancton a une vie très courte, quelques heures à quelques jours pour le phytoplancton.
D'accord.
Et puis pour le plancton animal, quelques jours à quelques semaines. Donc il se renouvelle tout le temps, il y a un renouvellement, il se divise, il se multiplie, il s'accouple si c'est animal, il fait des bébés. Donc il est vraiment très actif. Et donc c'est très important de le protéger. Mais surtout, ce qui est important, c'est la diversité. Parce que si on n'a qu'une espèce de plancton qui domine, ben, il n'y aura pas à manger pour tout le monde, quoi. Voilà, donc là, il y en a assez.
Il y en a des dizaines de milliers de planctons différents,
Des millions. Mais bon, on connaît quelques centaines de milliers, c'est déjà pas mal. Mais il y a encore du boulot, je crois.
Ah ben voilà.
Et voilà, et donc.
Ça grouille là.
Vous voyez, on voit les petits points.
Ouais.
Alors bien sûr, premier coup d'œil comme ça, on voit de la poussière, un peu de la poussière à travers la lumière là, du soleil. Là je vois du zooplancton, pourquoi ? Pas parce que je vois que ça scintille. On voit des petites particules qui scintillent, qui sautent. Donc ça fait à peu près 100 microns, ce qu'on voit là.
Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que dans votre regard, à chaque fois, vous vous dites, tous ces petits points-là, c'est ce qui nous a quand même donné la vie.
Ben oui, oui.
Parce qu'à l'origine, c'est quand même ça.
Ben oui, ça fait battre le cœur quand même. C'est toujours de l'émotion. Le plancton, au départ, c'est de l'émotion, du ravissement. Et puis après, bon, ça devient de la science. Et puis après, bon, ça devient de l'aliment, quoi, pour les poissons. Et puis peut-être un jour, directement pour nous, puisque on pense que dans quelques années, même déjà aujourd'hui, on commence à faire entrer le plancton dans l'alimentation humaine. Et tout faire pour que ce ne soit pas un médicament, encore moins un alicament, mais vraiment un aliment.
Pierre Molot, les êtres unicellulaires, on est face à ça là ?
Ah oui, unicellulaires, oui, ils sont là, mais on ne les voit pas. Là, il faut un microscope, il faut grossir, parce qu'on est de l'ordre de 10, 50 microns quand même, quoi. Ouais. Alors 100, 200 microns, on peut le voir, mais oh, le bateau de groie qui rentre.
Voilà,
le bateau de groie qui rentre ou qui sort. Ouais. Et oui, groie est juste en face, pour lui. C'est une île intéressante, groie, parce que en fait, c'est le résultat de la bonne santé, de la qualité des eaux. Ici, on a le Blavet, on a le Scorff qui se jette dans la rade. Ensuite, on a la petite mer de Graff qui est juste de l'autre côté, là, la nurserie. Donc ici, on a vraiment le garde-manger planctonique. Là-bas, on a la nurserie des petits poissons. Et à Groix, on a les pêcheurs qui récoltent les sardines, les sprats, les anchois. D'accord. Et même les thons, à une époque, on pêchait beaucoup de thons autour de Groix. Donc vous voyez, quand on regarde la géographie, quand on regarde les usines ici, qui existaient, les usines à thon, les usines à sardines. Bon, on peut déjà savoir un peu ce qui se passe dans l'eau, quoi. On peut être à peu près sûr qu'ici, il y a vraiment de quoi nourrir la planète, quoi.
Pierre Molot, dites-nous maintenant quels sont les ennemis du plancton et aussi quelles sont les bonnes conditions pour qu'ils se reproduisent.
Aujourd'hui, on voit une augmentation des pesticides, des herbicides, des insecticides dans l'eau. Et ça, on le sait que ça a un impact vraiment sur le phytoplancton. Le phytoplancton, lui, aussitôt que... Mais on parle de traces de microgrammes, hein, vraiment de traces infinitésimales dans l'eau pour déjà modifier le phytoplancton. Et par contre, tout le phytoplancton n'est pas dégradé par les pesticides. Et lui, il va résister. Mais si on le regarde de près, ce phytoplancton qui résiste aux pesticides, il est toxique et dangereux. Et en plus, il est très peu diversifié, donc il réduit la diversité. Donc moi, je mettrai les pesticides en tête. Ensuite, il y a les nitrates, les phosphates, qui c'est un gros compétiteur, parce que plus il y a de nitrates et de phosphates dans l'eau, il en faut. Hein, il en faut. Si on n'avait pas, il n'y aurait pas de plantes. Mais quand il y en a en excès, à ce moment-là, on voit un développement d'algues, des macrophytes, quoi, qu'on appelle des algues vertes, qui vont occuper sur l'estran.
Eh ben, ils vont coloniser
et, au détriment du phytoplancton. On ne peut pas avoir les deux. On ne peut pas avoir des algues vertes et des diatomées. C'est l'un ou l'autre.
Et les poissons ne mangent pas les algues vertes.
Et voilà. S'il y a trois bigorneaux et demi et puis deux puces de mer, ok. Hein, et après, un cormoran qui va venir manger ça.
Pour vous, demain, c'est plutôt la mer qui va nourrir la planète. Ça va être des paysans de la mer.
Oui, puisque bon, on nous dit qu'en 2050, on sera 9 milliards. Mais si on sait, si on comprend bien l'écosystème et si on comprend bien le plancton et si on sait préserver le plancton aujourd'hui, moi, je pense que demain, on pourra nourrir l'humanité. Même aujourd'hui, quand on voit les quantités de poissons qui sont pêchés pour faire de la farine de poisson, pour faire un kilo de poisson à la fin, quoi. Hein, donc ça, c'est pas possible, quoi. Il faudrait déjà réduire la pêche dite industrielle qui transforme spras, sardines, anchois en farine pour faire quelques kilos ensuite au bout de la chaîne de poulet, de cochon ou de poisson. Donc si déjà on arrivait à réduire ce prélèvement et de dire ces pêcheries pourraient directement alimenter les humains, on peut se nourrir aujourd'hui des spras, des anchois et des sardines sans problème. Vous savez que pour faire un kilo de saumon, par exemple, il faut entre 5 et 10 kilos de poisson pêché. Donc on voit bien, quoi. Au niveau énergétique, c'est pas très rentable, quoi. Et de toute façon, on est condamné. Quand on voit les déserts qui s'agrandissent, moi je vais dans le désert de Gobi en avril, quand je vois le désert du Tchad qui s'agrandit, vous voyez un peu dans quel état sont les forêts, les agriculteurs qui démissionnent, c'est vrai qu'il faut. Nous, on se bat en tous les cas pour que l'agriculture continue et perdure, mais en prenant en compte l'environnement et la qualité des eaux. Et donc, c'est oui à l'agriculture. Maintenons l'agriculture sur le littoral en Bretagne, tout en gardant la qualité des eaux. Donc il faut vraiment qu'ils changent leur pratique. Et parce qu'en changeant leur pratique, la qualité des eaux revient, le plancton est toujours là, et demain on peut penser avoir tout ce qu'il faut pour nourrir l'humanité.
Non, mais on est absolument dans le cycle de l'environnement. C'est-à-dire que lorsque l'on touche un domino, après les choses se mettent à tanguer, à aller moins bien, ou alors au contraire à aller mieux, quoi.
Voilà, donc c'est un peu le travail que l'on fait ici, c'est que le plancton ne soit pas une affaire de spécialistes, de scientifiques ou de professionnels, parce que ça l'a été, hein, ça l'est encore, heureusement, oui. Mais que ce soit vraiment le plancton citoyen. C'est l'affaire de tous. C'est pour ça qu'on a créé cet observatoire du plancton, pour que le plancton soit accessible au plus grand nombre et à ceux auxquels on a affaire, c'est le consommateur, quoi.
Alors si vous souhaitez en savoir plus sur ce parent pauvre de la biodiversité, bah oui, parce que le plancton, évidemment, il n'est pas tellement aidé par sa taille. Rendez-vous à l'Observatoire du plancton, ça se trouve à Port-Louis, dans le Morbihan, donc vous l'avez compris, on est en face de l'Orient. Et puis tout ceci donc, fait partie quand même d'une opération qui est tout à fait intéressante, puisqu'elle s'appelle « La mer se cultive ». Et ce département donc, a créé 300 animations d'avril à septembre pour découvrir alors, les marins, les pêcheurs, les ostréiculteurs, le plancton bien sûr, puis aussi les artistes. artistes, parce que la mer, certes, se cultive, mais elle nous cultive également. Donc voilà, il y a toute une animation autour de la mer actuellement dans ce Morbihan. Et dans l'Observatoire du Plancton, d'abord, je voulais saluer à la fois les salariés et les bénévoles qui s'en occupent, parce qu'ils sont vraiment formidables. Et là, vous voyez, vous prenez une goutte d'eau, vous la mettez sous une lamelle, la lamelle, évidemment, sous le microscope, une caméra. Et alors là, en grand écran, vous avez une espèce de jeu vidéo incroyable avec des extraterrestres. Bah, ce sont ces poussières de mer qu'est le plancton, donc éphémère, translucide, frêle. On voit des ébauches de vie. C'est voilà, pour vraiment bien connaître ce plancton, vous allez à l'Observatoire du Plancton. Et puis vous avez l'ouvrage aux éditions Charles-Léopold Maillet, écrit entre autres par Pierre Molot, qui s'appelle « L'enjeu plancton, l'écologie de l'invisible ». Et puis je vous note aussi un autre ouvrage qui a un an d'existence, un ou deux ans, qui s'appelle La spiruline, donc bien sûr fait partie de ce plancton. La spiruline est signée Joël Le Guéhennec et c'est aux éditions Terre d'Homme. Donc voilà, une chance de survie pour l'humanité supplémentaire, on en a un petit peu besoin. Troisième volet dans quelques instants, mais oui, ça va être avec Nathalie Fontrelle qui se prépare pour l'actualité. Loving you is killing me. Busting me, you don't ever put your trust in me. Loving you should mean that I'm your king. You don't make me feel like anything. Now I never knew you'd be so evil. How did you get to be so evil? And you telling me I was bad to you. You don't know what you're talking about. Hear me when I is killing me. Ben oui, choisi par Muriel Pérez, c'était Allo et Black sur France Inter, toujours en direct. Donc après, comme c'est un magazine, première page avec Jean-Marie Pell, deuxième page, vous l'avez compris, avec le reportage sur le plancton. Et là, nous allons avoir... Ah, elle est là, Nathalie, oui, c'est ça.
Les oiseaux dans la charmille.
C'est joli, mais là, l'actualité de l'environnement, mais il faut l'abattre.
Mais oui, non, mais surtout pas Nathalie Fontrelle. Bonjour Nathalie Fontrelle.
Bonjour Denis.
Bon, on évitera de parler donc du bilan carbone du mariage, hein.
Bah écoutez, en tout cas, les chevaux, eux, n'ont pas émis de carbone.
Exact, absolument. Alors, plus d'un mois après la catastrophe de Fukushima, EDF a tiré donc les premiers enseignements.
Oui, avec la création annoncée d'une force d'intervention rapide, des hommes, du matériel, comme des générateurs diesel de secours, des pompes à eau, capables de converger rapidement vers un site accidenté. Vous le savez, à Fukushima, la perte d'alimentation électrique et la perte du refroidissement ont été à l'origine d'un début de fusion des cœurs.
Mais alors quand même, les centrales françaises ne sont pas parées contre cette éventualité ?
Eh bien, pas tout à fait, parce qu'on n'a pas étudié le cumul de ces incidents sur plusieurs réacteurs en même temps, ce qui a conduit à l'accident à Fukushima. Mais écoutez plutôt Hervé Macheneau, il est en charge de la production chez EDF.
Attendez, parce que vous qui êtes rapide comme l'équerre, qui êtes rusé comme un loup face aux chasseurs, vous n'avez pas voulu interviewer le PDG Henri Poglio ?
Ah mais ça, j'aurais bien voulu vous le faire entendre, Denis. Le problème, c'est que nous n'avons pas eu le droit d'enregistrer ses propos pendant la présentation, comme c'est la coutume pour une conférence de presse.
Oui.
Et puis ensuite, eh bien, il a tout simplement fui les micros, disparu le PDG. Alors nous nous sommes jetés sur Hervé Macheneau.
Le nucléaire, c'est une industrie. Cette industrie, elle est au plus haut niveau de sûreté que l'on connaisse. Je voudrais faire juste une toute petite comparaison avec l'aéronautique. C'est les deux industries qui sont au maximum du niveau de sûreté. Est-ce que ça veut dire qu'il n'existe aucun risque ? Évidemment non. Mais chaque événement et chaque accident conduit à améliorer le niveau de sûreté pour qu'il soit constamment presque parfait. Après Fukushima, c'est la prise en compte de tout le retour d'expérience qu'un exploitant peut prendre pour améliorer encore le niveau de sûreté de ses centrales. La sûreté dans le domaine nucléaire doit être totale. Et c'est quand on s'aperçoit qu'il y a un nouvel incident qu'on est amené à améliorer encore cette sûreté.
Alors bien sûr, une version que les anti-nucléaires récusent.
Oui, ils demandent que l'on suspende le chantier de construction de l'EPR qui, selon eux, serait déjà dépassé, justement, du point de vue de la sûreté. Sophia Maioni est en charge du nucléaire chez Greenpeace.
Le président de l'ASN, M. Lacoste, a dit qu'il faudrait 10 ans pour avoir le retour d'expérience technique de Fukushima. 10 ans. Au bout de un mois et demi, EDF fait une conférence de presse en ayant peut-être la prétention d'avoir le retour d'expérience de Fukushima qui n'est même pas fini. La catastrophe est encore en cours. Donc évidemment, c'est important de faire un audit, c'est important de connaître le niveau de sécurité de nos centrales. Ce qui est important, c'est surtout d'arrêter de construire de nouveaux réacteurs pendant ce temps-là. Donc on est aujourd'hui là pour demander l'arrêt du chantier EPR de Flamanville, qui est une aberration, un réacteur qui a été conçu pour répondre aux conséquences qu'on a tirées de Tchernobyl et de Three Mile Island. Ce réacteur, avant de rentrer en fonction, est obsolète. Il ne prend pas en compte ce qui s'est passé à Fukushima. Il faut donc que ce chantier s'arrête aujourd'hui.
Alors vous le savez, pas question de sortir du nucléaire, a répété Nicolas Sarkozy cette semaine. Pour lui, il faut tirer les leçons de l'accident de Fukushima, mais surtout garder son sang-froid. Mardi prochain, le président de la République visitera la centrale nucléaire de Gravelines pour confirmer le choix de la France. Atome, mon amour.
Oui, j'ai peut-être changé de titre d'émission. Mais le credo actuellement d'Areva, de l'État et donc de la filière, c'est de dire si à Fukushima il y avait eu des réacteurs EPR, ils auraient résisté. D'accord, mais enfin, il n'existe pas encore, donc on peut pas vraiment savoir. Tenez, jolie musique là.
De la muette à Pigalle, on se l'est répété, une bonne nouvelle, ça vaut le coup d'en parler. Il fait beau, il fait beau.
Et tout Paris bientôt fredonne obstinément ce refrain de trois mots monotone et charmant.
Il fait beau, tout le monde est content.
Alors, chère Nathalie, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Eh bien, la météo a fait mentir donc ce vieil adage.
Oui, et savez-vous quel est le produit que l'on s'est arraché avec un taux de croissance des ventes de 46%?
Bon, je sais pas, les glaces, allons-y.
Non, les insecticides.
Ah, ça, c'est moins bon, parce que j'ai goûté de la glace à l'insecticide, c'est pas terrible du tout. Alors, ça veut dire qu'on est. Enfin, attendez, on est envahi là par plein de bestioles?
Non, mais c'est vrai que la chaleur a réveillé les insectes un peu plus tôt, et c'est sans doute parce qu'on n'a pas l'habitude d'en voir autant en avril que les consommateurs ont acheter des insecticides.
D'accord. Bon, il y a de nombreux départements aussi en état de sécheresse, on le sait, il faut vraiment qu'il pleuve, ce sera plutôt une excellente nouvelle. Alors, autre bonne nouvelle tout de même, c'est la campagne du ministère de l'écologie « Jardiner autrement ».
Et ce message, les pesticides, apprenez à vous en passer. Même les professionnels, les fabricants de produits phytosanitaires se sont associés à cette campagne, comme s'ils voulaient se tirer une balle dans le pied.
Je ne m'inquiète pas trop pour eux, oui.
Réponse de Jacques Mie, le directeur de l'UPJ, l'Union des entreprises pour la protection des jardins, ce sont les producteurs de phytosanitaires.
Je ne pense pas, parce que d'abord, Un bon jardinage, on va dire que c'est manichéen, mais une plante, elle a besoin d'être nourrie. C'est-à-dire qu'on sait que, par exemple, les jardiniers d'amateurs ne nourrissent pas assez leurs plantes. Et puis également, nos industriels, ils ont une offre plurielle dans le jardin. C'est-à-dire qu'on a à la fois les produits de synthèse qui sont pointés du doigt, mais on a également toute une offre de produits alternatifs que l'on retrouvera moins en agriculture, mais que l'on retrouve effectivement en jardinage. C'est ainsi que l'UPJ a développé une marque produits naturels pour aider les utilisateurs à bien faire leur choix. Parce qu'on peut choisir de ne pas utiliser de produits de synthèse. Et puis on peut également utiliser des produits de synthèse sans mettre en danger la santé et l'environnement si on respecte strictement les conditions d'emploi.
En tout cas, cette semaine, c'est aussi l'occasion de découvrir d'autres méthodes de lutte contre les ravageurs des jardins, Nathalie.
Oui, et l'une d'entre elles, c'est de renforcer la défense immunitaire des plantes.
Ce qu'on devrait faire pour nous avec notre corps, hein, c'est
exactement,
ça.
Exactement, ça s'appelle de la prévention. Oui. La société Goémar utilise par exemple des produits à base d'algues. Jean-Marie Joubert est le directeur de la recherche et du développement.
On utilise des molécules extraites des algues, une molécule qui représente un sucre et qui mime l'attaque parasitaire au niveau de la plante. Ça veut dire que naturellement, la plante, lorsqu'elle reconnaît un pathogène, elle installe toute une série de réactions au niveau cellulaire et donc elle se prémunit d'une attaque. Et donc, une fois que toutes ces réactions sont installées au niveau de la plante, eh bien, lorsque le pathogène arrivera, le pathogène ne pourra pas attaquer la plante.
Ça marche à tous les coups ?
Ça marche à tous les coups. À partir du moment où le leurre est appliqué avant l'apparition de la maladie, oui.
Ça veut dire que c'est de la prévention.
C'est de toute façon une prévention. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller attaquer un pathogène, on va mettre la plante dans des conditions qui va lui permettre de se défendre elle-même.
Et bien là encore, donc les bienfaits viennent de la mer, comme nous l'a rappelé aussi tout à l'heure Pierre Molot avec le plancton. Alors si vous souhaitez jardiner autrement, bien vous allez sur le site de CO2 Mon Amour pour ce site de jardiner autrement. On vous l'a mis en ligne, donc aucun souci. Et donc après le jardin, on va vous offrir donc là ce paysage sonore de sous-bois, ça nous fait du bien. On reste dans le vert avec cette nouvelle opération du Muséum National d'Histoire Naturelle, Sauvage de Maru.
C'est de la science dite participative. En fait, les scientifiques font appel au volontariat, à nous, hein, pour recenser les plantes sauvages qui arrivent à coloniser la ville malgré le bitume et le béton. Écoutez les explications de Nathalie Machon, elle est en charge de la campagne.
Le programme Sauvage de Maru demande au grand public d'inventorier les plantes qu'ils trouvent dans leur rue et qui nous envoyaient les données. À Paris, il y a un millier d'espèces, mais disons que la plupart sont très très rares. Et celles qui figurent dans le livre, c'est celles que les gens vont concrètement rencontrer sur leur trottoir, sur les murs, au pied des arbres, entre les pavés, etc. Par exemple, les coquelicots, les pâquerettes, ça c'est pour les plus connus. Il y en a des beaucoup moins connus, mais très jolies quand même. La petite cymbalaire des murailles qui fait des petites fleurs violettes. En ce moment, elle est fleurie sur les murs. Et tout un tas d'espèces, les orties, des espèces qui sont parfois moins bien connues ou moins bien perçues parce qu'on n'en perçoit pas l'utilité, mais qui peuvent avoir un rôle très important sur la biodiversité de la ville. Notre projet de science participative a pour objectif de comprendre le fonctionnement de la biodiversité. On a besoin de beaucoup, beaucoup de données. Faire participer les citadins, c'est d'un côté les faire participer à un projet de science utile pour comprendre le fonctionnement de la biodiversité, mais aussi leur permettre de connaître la nature qui les entoure. Et on espère qu'avec un programme de science participative, on aura plusieurs milliers de personnes qui vont participer, nous envoyer des données. On n'a évidemment pas les forces vives dans la recherche pour récupérer toutes ces données d'une façon aussi efficace.
Oui, voilà, elle l'a répété plusieurs fois. Hein, les scientifiques ne sont pas assez nombreux pour recenser le vivant. Et ces opérations rencontrent un véritable succès auprès du public.
Ah bah ça marche. On a parlé l'autre jour d'opération Chie-Écureuil dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est pareil. Alors là, c'est pour recenser les écureuils gris. Donc, allez-y, comptez les escargots, les insectes pollinisateurs, les papillons dans les jardins. On adore
ah,
ça.
Ah, les papillons. Alors là, ça a rencontré un véritable succès. Benoît Fontaine est chercheur au Muséum National d'Histoire Naturelle.
On a plusieurs milliers de jardins qui sont suivis chaque année. Plus d'un million de papillons qui ont été comptés. Et toutes ces données permettent d'avoir une idée de la façon dont les populations de papillons se répartissent sur notre territoire et la façon dont elles réagissent à toutes les modifications de l'environnement provoquées par l'homme. On a par exemple un papillon qui s'appelle le tircis, qui est un papillon commun qu'on trouve partout, qui supporte très bien l'urbanisation, qui est présent même dans des tout petits jardins en ville. C'est une espèce qui est remarquable pour ça. La plupart des autres espèces, dès qu'il y a un peu de béton, elles disparaissent. On a une autre espèce, c'est le brin d'épée largonium, qui est là une espèce introduite, qui vient d'Afrique du Sud, qui a besoin des géraniums pour se reproduire. Et donc, on ne la trouve pas dans la nature, on la trouve que dans les villes, celle-là.
Sans le public, vous n'auriez pas réussi à travailler ?
Les résultats de ce suivi auraient été impossibles à obtenir si on avait fait appel uniquement aux chercheurs qui travaillent sur les papillons, parce qu'il n'y a pas assez de monde. Là, on a une force de frappe énorme. On a chaque année entre 3 et 4 000 jardins qui sont suivis. Donc on a entre 3 et 4 000 personnes qui observent les papillons dans toute la France.
Bon, bah écoutez, moi je veux bien me transformer en botaniste parce que d'abord, je n'ai pas mon Jean-Marie Pelt dans ma poche tout de suite, là, en permanence. Et j'ai un peu de mal à identifier les plantes sauvages.
Hein. Ah, rassurez-vous, tout est sur le site internet où vous pourrez également entrer vos données, vos observations. Sauvage au pluriel de Maru, toutattaché.fr.
Bon, écoutez, comme il n'est pas loin de 15 heures, vous allez vous sauver, Jean-Nathalie, vous retrouvez dans votre jardin, vous allez herboriser.
Oui, je vais aller compter les orties.
Voilà, c'est ça. Et puis il est lombric, vous avez beaucoup de lombric, donc c'est très très bien. On se retrouve bientôt.
À bientôt, Denis.
Au revoir, Nathalie.
Au revoir.
Tombé du ciel, à travers les nuages, quel représage pour un aiguilleur du ciel. Tombé du lit, fauché en plein rêve, frappé par le glaive. La sonnerie du réveil tombée dans l'oreille d'un sourd qui venait de tomber en amour la veille d'une hôtesse de l'air fidèle tombée du haut de la passerelle dans les bras d'un bagagiste un peu volage ancien tueur à gages. Comment peut-on tomber plus mal, tomber du ciel belle aux louanges, chassée par les anges du paradis originel, tombée de sommeil, perdu connaissance, retombée en enfance, au pied du grand sapin de Noël, voilée de mystère, sous mon regard ébloui par la naissance.
Ah, moi j'adore le petit solo là comme ça de Jacques Higelin, vous aussi je pense bien sûr, donc tomber du ciel. Tenez, on va passer à un agenda assez court, mais un agenda quand même de CO2 Mon Amour.
L'agenda de CO2 Mon Amour.
Alors au-delà des nombreuses manifestations concernant, on va dire, Fessenheim d'un côté, les gaz de schiste de l'autre, là ça y va, hein, et forte mobilisation citoyenne, j'ai sous les yeux un ouvrage qui s'appelle Islande, splendeur et colère du Nil, qui est signé Michel Detay et Marie Detay. Donc l'Islande, on va dire que c'est un tiers de la superficie de la France, des aurores boréales. Bonjour Michel Detay.
Bonjour Denis.
Alors Michel, vous parlez d'une véritable île extraterrestre, pourquoi ?
Ah, parce que quand on arrive en Islande, qui doit être un des derniers bastions de la nature en Europe, on est vraiment transporté comme sur une autre planète. On est sur une île uniquement volcanique, qui est une partie émergée de l'aride médio-atlantique, qu'on peut normalement observer que sous quelques milliers de mètres d'eau. Et on est dans un paysage qui est complètement extraterrestre.
Et qui est toute jeune, hein, comme île, 16 millions d'années.
16 millions d'années, oui, elle est donc née avec cette fameuse fracture qui sépare d'un côté la plaque Amérique du Nord, Amérique du Sud et la plaque Europe-Afrique. Et en plus, elle se trouve sur ce qu'on appelle un point chaud qui a permis que l'Islande soit émergée. Hein, sinon, ça serait aussi une partie sous l'eau de l'aride médio-atlantique. Et donc, c'est la combinaison de ce point chaud qui amène un volcanisme extraordinairement actif et de sa position sur la rive milieu-atlantique qui font que l'Islande est émergée. Et c'est une île qui est très récente, quoi, c'est, enfin, au sens géologique du terme. On parle de 17 millions d'années.
Michel Detay, un petit coup de loupe, soit sur un geyser, soit un volcan, soit un glacier. Petit coup de cœur de votre part, lequel ?
Ah ben le dernier en date, celui qui a un nom imprononçable. Il s'appelle Leia Fiatlayukult. Je ne vous demanderai pas de le répéter. C'est le fameux volcan...
Et de la Fatayukult.
Leia Fiatlayukult.
Ah oui.
Donc, qui a paralysé l'espace européen pendant une bonne semaine, en avril 2010.
Mais moi, je vous parle de la beauté, là. Dites-moi tout.
Ah ben, la beauté, c'est le feu d'artifice de l'éruption volcanique. En plus, c'était une éruption volcanique au cœur d'un glacier. Donc, moi, j'y suis allé tout de suite, hein, grâce à des amis géologues islandais qui ont des véhicules qui permettent de rouler sur les glaciers. Donc, on avait fait un tracé à travers Google Earth pour essayer d'avoir des points GPS au milieu du glacier. Et on a pu vraiment, après une douzaine d'heures de route pour approcher l'éruption, être vraiment au cœur de l'éruption. Là, c'était complètement fantastique.
Alors, des photos extraordinaires de votre épouse Anne-Marie Detay et vraiment un petit coup de cœur parce que là, vous avez touché le membre de la LPO que je suis, de la Ligue pour la protection des oiseaux, qui a un emblème qui est le macaremoine, c'est-à-dire cet animal extrêmement attachant, de petite taille, qui ressemble à un clown, à peu près 25 cm au corps rond. J'ai redécouvert que le macareux était un symbole national en Islande.
Oui, le macareux, c'est un animal ultra sympathique. Hein. Il y en a 15 millions d'habitants, il y a 4 millions de macareux dans le monde, dont 9 millions qui sont en Islande, c'est-à-dire 60% de la population mondiale. Donc l'été, ça représente 15 fois la population des humains entre les Islandais et les touristes. C'est le symbole national de l'île. Malheureusement, c'est aussi le plat national de l'île.
C'est-à-dire qu'ils le mangent,
plat national. Oui, ils le mangent. Et on trouve encore des gens qui chassent les macareux. Ce sont des animaux un peu pataux. Ils les chassent avec des filets. Mmh. Ils font des allers-retours tout le temps entre la mer et leur terrier. Ce sont des animaux qui vivent dans les terriers, au sommet des falaises. Donc c'est toujours amusant de voir une espèce d'oiseau lapin qui creuse son terrier. Et malheureusement, les Islandais continuent encore à les chasser pour les manger. Bon, alors que ce n'est pas un plat formidable. L'oiseau, en tout cas, est vraiment très, très photogénique. Et on a pris beaucoup de plaisir à vivre avec eux et à les photographier.
Et puis en Islande, vous avez aussi avec beaucoup d'élégance la sterne arctique, qui est une reine de la migration, qui va très très loin, qui se fait ses petits tours du monde régulièrement et qui donc se pose aussi en Islande.
Oui, j'adore la sterne. On calcule qu'elle fait des migrations deux fois par an entre le pôle Nord et le pôle Sud.
C'est ça.
Et comme elles vivent en gros 30 ans, elles font en une vie trois fois la distance Terre-Lune. Donc c'est vraiment des distances considérables, c'est 2,4 millions de kilomètres. Et la sterne est aussi un oiseau magnifique qu'on a pu photographier, notamment grâce à un kayak. On avait emmené un kayak sur des lagons glaciaires et on pouvait approcher les sternes qui ne nous considèrent absolument pas comme des hommes du fait qu'on soit en bateau. Et on a pu arriver à faire des photos des sternes, y compris des parents qui nourrissent les petits. En étant vraiment à quelques mètres, on a des photos assez remarquables.
Islande, splendeur et colère du Nil, c'est aux éditions Belin. Et puis, avec notre partenaire Terre Sauvage, nouvelle formule au mois d'avril, vous retrouverez d'ailleurs aussi ce volcan islandais au nom imprononçable dans ce numéro de Terre Sauvage. Et puis, un article très intéressant d'un philosophe qui s'appelle Alain Légoni. Les animaux sont-ils bêtes ?
La philosophie occidentale pense l'homme par rapport à l'animal. L'animal est le négatif philosophique de l'homme. L'intelligence serait le privilège de l'homme. Il existe une intelligence sensible, qui est celle de l'animal, une intelligence situationnelle. C'est l'intelligence du vol, l'intelligence de la course. Et de ce point de vue, l'animal a été, on peut dire, gâté par la nature.
Et d'ailleurs, vous dites que ce n'est pas l'animal-machine, mais qu'on est devenu peut-être nous-mêmes homme-machine, parce qu'on était obligé de fabriquer des choses pour pouvoir peut-être ressembler aux animaux.
Car en effet, c'est parce que sa dotation naturelle est pauvre que l'homme a dû avoir recours à la technique pour fabriquer notamment des machines roulantes, des machines volantes. Selon Descartes, l'animal dépourvu de raison et de conscience n'est qu'une machine actionnée par l'instinct, c'est-à-dire par la nature. Eh bien, en réalité, l'animal-machine, c'est nous.
Alors, Alain Légoni, parlez-nous aussi peut-être avec des exemples des ruses des animaux que j'ai découvert aussi dans cet article de Terre Sauvage. Racontez-nous par exemple ce que font certains animaux pour fuir leurs prédateurs.
En effet, le cerf par exemple, poursuivi par une meute, est capable, lorsqu'il est épuisé, d'aller se fondre dans la masse d'une harde composée de biches et de daguets, de mélanger son sentiment, ce sont les termes qu'utilisent les chasseurs, à celui de ses congénères, et de pousser hors du troupeau un jeune cerf, un daguet, lequel va prendre le relais. Et le daguet, donc, qui est tout frais, va bientôt mettre sur le flanc les chiens qui abandonneront sa piste.
Alain Légonis, ce que vous avez souhaité faire dans cet ouvrage, c'est de rompre le silence des bêtes.
Voilà, rompre le silence des bêtes, car l'animal demeure un mystère, autant pour la science que pour la philosophie. Il est à la fois ce qui est le plus proche et le plus lointain.
Un article signé Jean-Jacques Fresco donc dans ce numéro avec Alain Légonis de Terre Sauvage d'Avril. Merci à Rémi Quincé, à Pierrick Monsigny, à Séverine Bouvard, Marion Lelay, Jean-Christophe Pinaza et Somani Na qui a réalisé cette émission. Merci également à Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour et je vous recommande toujours son site à elle, donc l'environnement en temps réel. La semaine prochaine, bien réponse à pas mal de questions qui sont arrivées sur le répondeur 01 56 40 40 35. On parlera de plan climat, on parlera de qui dirige le nucléaire en France, nous irons du côté de Hanovre. Voilà, donc une émission aussi éclectique. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous retrouve demain à 19h54 après les petits bateaux de Noël Bréham avec la tulu Mon Petit Loup. Et dans quelques instants, ce seront les liaisons heureuses en compagnie de Colomb Schneck. Vous l'avez compris, sur France Inter et partout, il est 15h.